Troisième temps de notre histoire des protestantismes dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, comment les protestants ont-ils raconté et racontent-ils encore leur histoire ? Après avoir évoqué lundi les protestants dans la résistance avec Patrick Cabanel, puis hier écouté dans le documentaire de Catherine Decopé et Françoise Camard les formidables témoignages de ceux et celles qui fréquentèrent dans les années 70 le centre des réfugiés de la CIMAD à Massy. Et avant demain de nous intéresser à l'attribution des lieux de culte aux protestants, nous allons ce matin nous demander comment les protestants ont donc raconté leur histoire. Le mois prochain paraîtra en effet le premier numéro de la revue d'histoire du protestantisme qui prend le relais du bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, édité depuis 1852, grâce à des textes lus par Daniel Königsberg et choisis par Catherine Decopé, qui a préparé cette semaine avec nous, deux historiens et historiennes du protestantisme, Hubert Bost, président de l'École pratique des hautes études et directeur d'études du protestantisme et culture dans l'Europe moderne, ainsi que Pauline Dulé-Naour, qui est professeure agrégée d'histoire et qui est auteure d'une thèse sur les réseaux du refuge, qui sera publiée l'an prochain, ainsi qu'un sociologue, Jean-Paul Willem, directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, à la direction d'études et sociologie du protestantisme, qui a co-dirigé la Nouvelle France protestante chez Labor et Fides, seront avec nous pour commenter ces textes et pour évoquer justement cette longue histoire du protestantisme français.
Le bulletin a, dès l'origine, donné un point d'appui aux études dont notre histoire est l'objet. Dans le cours d'une carrière déjà longue, il a plus d'une fois rectifié l'erreur, dissipé la prévention, confondu la calomnie, porté la lumière sur des points obscurs, suscité d'importants travaux en France et à l'étranger. Quel historien digne de ce nom pourrait s'occuper aujourd'hui de l'histoire du protestantisme français sans consulter ce précieux répertoire de documents de toute nature, auquel une table des matières rédigée avec soin va donner un nouveau prix ? Lettres de réformateurs et de martyrs, actes de nos assemblées politiques et synodales, notices académiques, correspondances avec les églises étrangères, mémoires de réfugiés de la révocation, complainte du désert, registre des galères, bible de famille, portant inscrite à la première page les épreuves et les délivrances domestiques. Que de trésors tirés de l'oubli, de matériaux accumulés qui n'attendent qu'une main habile pour entrer dans le monument définitif que nous devons à la mémoire de nos pères.
Voici un extrait donc lu par Daniel Königsberg de la préface du bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, 15e année, nous sommes en 1866-1867. Bonjour Catherine Decopé.
Bonjour Emmanuel.
C'est vous qui avez sélectionné sur l'excellent site de la Bibliothèque nationale de France, Gallica, ce texte-ci qui, d'une certaine façon, Hubert Bost, nous plonge parfaitement dans... les problématiques qui sont celles du récit, justement, de l'histoire du protestantisme français. On y entend des mots, la mémoire de nos pères, mais on entend aussi la nécessité de faire une histoire sérieuse qui documente avec des archives cette longue histoire du protestantisme. Hubert Bost, bonjour.
Bonjour. Oui, en effet, je crois que vous avez raison de choisir ce texte qui montre la tension entre la dimension mémorielle de l'histoire protestante des Français et leur volonté de faire une histoire critique, de donner à voir et à lire des documents qui sont oubliés. À certains égards, on peut dire que l'histoire protestante est une histoire de vaincus. En tout cas, c'est une histoire d'une minorité, en France du moins, et c'est bien l'un des problèmes. Elle risque d'être oubliée, elle risque de faire l'objet d'une amnésie nationale, et les protestants sous la République française éprouvent le besoin de se donner les outils critiques pour une approche qui soit savante.
Alors là, ça n'est pas exactement sous la République, puisque nous sommes en 1867, on prépare la République, mais on ne sait pas encore qu'elle va advenir d'ici quelques années, et on est aussi dans une période assez faste, pourrait-on dire, pour le protestantisme français, ce second temps l'Empire, qui les voit les protestants sortir d'une certaine façon d'une sorte d'anonymat et participer à la croissance de la France du 19e siècle. Cela a quelque chose à voir, ce contexte économique et ce contexte intellectuel, pourrait-on dire, de création d'une société d'histoire du protestantisme français en 1852?
Je pense que cela participe de la de ce que un collègue a appelé le retour des Huguenots au cours du 19e siècle, c'est-à-dire de toute une de tout un mouvement initié très lentement depuis la Révolution française qui a permis aux protestants effectivement de redevenir des citoyens français. En effet.
Jean-Paul Willem.
Oui, les protestants en France forment une minorité, et comme souvent les minorités, ils tiennent beaucoup à leur histoire, à rappeler leur histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le souci de la mémoire a pu nourrir l'intérêt pour l'histoire scientifique du protestantisme, et a permis de passer d'une histoire protestante à une histoire du protestantisme.
C'est sûr. Et à quelle époque peut-on le dater, cela, justement, ce passage de l'une à l'autre? Est-ce que ça a été lent? Est-ce que ça a été rapide?
Ça a été lent et progressif, parce qu'il ne faut pas cacher qu'il y avait une écriture catholique de l'histoire de France et que la mémoire des minoritaires était sous-estimée dans cette écriture du groupe influencée par le groupe religieux dominant.
Catherine de Copé.
Alors, la Société de l'histoire du protestantisme est une société savante. Donc, 1852, son fondateur, Charles Reed, un historien. Et là, dans le texte, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà qu'il y a le souci des sources et de rassembler des documents qui peut-être vont partir dans l'oubli. Pauline Dulé-Aour, cette idée de rassembler comme ça une mémoire de texte, c'est un enjeu toujours très fort de cette histoire?
Ah, je crois que tout étudiant, tout apprenti historien ou tout historien s'intéressant au protestantisme français commence par l'index du bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français. Oui, parce qu'on y trouve une véritable mine de documents inédits et puis naturellement des études, mais qui quelquefois sont un peu datées historiographiquement.
Il y a toujours cette idée d'un appel à contribution. Donnez-nous des documents, sachant que la Société de l'histoire du protestantisme constitue une bibliothèque dès sa fondation, hein, c'est bien cela?
Oui, absolument. Et on trouve vraiment des perles. J'ai moi-même, pour mon mémoire de diplôme, trouvé un certain nombre de documents dans cette source.
Mais tout compte fait, on est aussi dans ce que les historiens ou les historiographes appellent le siècle de l'histoire, c'est-à-dire ce 19e siècle est tout à fait baigné dans cette idée de la récollection des sources. Alors qu'on soit protestant, catholique ou tout autre, ou libre penseur, on rassemble des sources. C'est depuis Augustin Thierry, Michelet et évidemment Guizot, cette idée qu'il faut faire l'histoire à partir des sources que l'on trouve, Hubert Bost.
Vous avez tout à fait raison. Mais simplement, ce qui m'amuse là-dedans, c'est que les protestants du XVIe siècle déjà avaient une sorte de tendance à retourner aux sources, mais aux sources de la Bible. Et il semble que cette disposition à revenir aux sources pour trouver quelque chose d'authentique dans leur foi ait été en quelque sorte contagieux dans leur mémoire.
Ça a toujours été un rêve pour Daniel Koenigsberg d'incarner François Guizot. Il va le faire tout de suite avec nous par ce texte de 1866 retrouvé justement dans le bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français.
J'ai quelquefois entendu exprimer des inquiétudes sur notre société, sur l'effet de ses travaux. Cette histoire qui nous occupe, c'est l'histoire des discordes religieuses, des calamités, des iniquités qui, à leur suite, ont si longtemps affligé, ensanglanté la France. Ce sont là, dit-on, des souvenirs irritants et il faudrait mieux les laisser dormir. Personne, messieurs, ne désire plus que moi que toutes les anciennes et mauvaises passions demeurent à jamais endormies. Personne ne désire davantage qu'entre les diverses églises chrétiennes, la paix règne au sein de la liberté et que nous ayons toujours, les uns envers les autres, un esprit large et un cœur doux. Mais là, où il y a eu beaucoup de fautes commises et beaucoup de maux soufferts, ce n'est pas à l'oubli qu'il faut demander d'en empêcher le retour. Les nations qui oublient leurs maux et leurs fautes s'exposent par là à les voir toujours recommencer. C'est un devoir impérieux pour des sociétés comme pour les hommes de sonder sans cesse, de scruter sévèrement leur passé et de se souvenir pour se repentir. Il est bon pour nous de revoir constamment tout ce que la liberté religieuse a coûté à nos pères. On a pu croire les protestants anéantis. Mais malgré toutes les apparences et à travers toutes les épreuves, ils ont persévéré de telle sorte que lorsque la liberté a reparu, on a vu de tous côtés reparaître avec elle un fond de protestantisme populaire, une part considérable de peuples protestants qui, en silence et en deuil, avaient attendu sans abdiquer. Telle est la leçon, messieurs, qui ressort de notre histoire et en même temps qu'elle nous enseigne quelle récompense est assurée à ceux qui persévèrent, elle nous enseigne aussi quel est le secret de cette persévérance et la force qui la soutient.
Un extrait donc de ce texte de Guizot dans la revue de l'histoire du protestantisme français, le bulletin de l'histoire du protestantisme français en 1866. Alors voilà un homme qui parle, en tout cas par la voix de Daniel Königsberg, comme un homme d'État. C'est un homme d'État qui parle et qui s'adresse à ceux qui pratiquent comme lui le protestantisme. Et il dit des choses très intéressantes, très passionnantes. La question de ces anciennes et mauvaises passions qui peuvent revenir. Cette idée dont nous parlait déjà Patrick Cabanel lundi sur cette crainte, ce fantôme des Huguenots, cette crainte du retour à la façon d'être persécuté, qui est toujours présente dans l'histoire du protestantisme français. Et la question aussi du souvenir pour se repentir. Qui veut intervenir sur ce texte Hubert Bosc?
Je dirais peut-être un mot sur le fait que les protestants ont effectivement cette mémoire-là, la mémoire de gens qui ont été exclus du roman national, et qui, à cet égard, éprouvent toujours le besoin de montrer qu'ils n'ont pas trahi la cause civique, en quelque sorte, qui était celle de la France. C'est extrêmement important dès l'époque des guerres de religion au XVIe siècle.
C'est une façon de se justifier d'une certaine façon, oui, d'être dans le pays, dans la France et dans son
précisément,
histoire.
Précisément, parce qu'ils ont été en quelque sorte soupçonnés d'être, selon les époques, le parti de l'étranger ou des traîtres à la cause nationale. Et effectivement, il y a une dimension d'auto-justification souvent dans leur travail historique.
Catherine de Copé.
Ce qui est intéressant, Jean-Pierre Willem, dans le texte qu'on vient d'entendre donc par François Guizot, c'est cette idée aussi que le mot protestant, il est répété à plusieurs reprises, constitue une sorte de socle identitaire dès cette période-là, et peut-être même avant. C'est une question que vous avez travaillée, cette question du mot protestant qui va rassembler comme ça cette mémoire.
À l'histoire du mot protestantisme, le mot protestantisme est apparu après les réformes du XVIe siècle. On a d'abord parlé des protestants, hein, avec la diète de Spire en 1529. Et ensuite, c'est seulement au XVIIe siècle qu'on a parlé de protestantisme. Et aujourd'hui, c'est le mot protestantisme, comme l'a dit un historien britannique, Alistair MacGrath, c'est un peu une narration commune de transformation et une identité très diversifiée qui, à travers le mot protestantisme, se reconnaît un air de famille, avec des sources historiques, références aux événements du XVIe siècle, et des ressources théologiques diverses, avec des travaux d'interprétation, de réinterprétation de la Bible, de son exégèse, et de la façon dont on systématisait la lecture de la Bible.
Et dans un article qui va paraître donc dans le numéro 1 de la revue de l'histoire du protestantisme, à partir du mois prochain, vous écrivez effectivement que cette question même de fixer le terme de protestant ou de protestantisme n'est pas, vous venez de le dire, n'est pas si clair que cela, et que la France, avec la Belgique et les Pays-Bas, sont presque le seul pays à utiliser ce terme-là pour eux-mêmes d'une certaine façon, et que les autres termes sont très différents, évangéliques dans d'autres langues, réformés et autres, Jean-Paul Willem.
Mais c'est ça un peu le paradoxe, le protestantisme est le nom d'une diversité, car quand on regarde les noms des églises à travers l'Europe, à travers le monde, c'est plutôt des
luthériennes,
églises
réformées, presbytériennes, baptistes,
méthodistes, pentecôtistes, etc. Et donc, à travers le mot protestantisme, c'est une façon de dire une identité commune au-delà des différences d'ordre, d'orientation théologique. Le protestantisme, selon le protestant, ça va du fondamentalisme au libéralisme, avec toutes sortes d'intermédiaires. Des régimes ecclésiastiques différents selon les églises, tendance épiscopale, tendance presbytéro-synodale chez les réformés. Et puis aussi une grande diversité de langues, de cultures. culture, car les églises protestantes se sont beaucoup, on pourrait dire, acculturées dans différents ensembles linguistiques, culturels et nationaux.
Oui, vous parlez même, vous, Hubert Bost, d'une naissance sans faire part. Qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce que vous voulez dire?
On ouvre un grand chapitre.
Oui, c'est quand même très intéressant.
D'un mot, je voulais dire que, au fond, le mot est apparu avant même que la réalité qu'il désigne soit véritablement définie.
Fixé.
Et le mot est apparu tardivement, comme Jean-Paul Willem vient de le dire, alors que la réalité plurielle avait déjà plus d'un siècle. Ce que je voulais ajouter aux remarques du sociologue de la religion qu'est Jean-Paul Willem, c'est que le protestantisme est aussi le nom d'une diversité culturelle, politique, militaire, économique, médiatique. À mains égards, cette réalité qu'on essaie de désigner à travers ce terme échappe aux catégories classiques et notamment à la dimension exclusivement religieuse.
On s'est même posé une question avec Catherine de Copé et toute l'équipe de la Fabrique de l'Histoire. Est-ce qu'il fallait appeler cette semaine Histoire du protestantisme français ou Histoire des protestantismes? Et on a découvert effectivement que la multiplication des protestantismes autorisait effectivement de mettre un pluriel là où beaucoup de gens mettent un singulier. Le musée virtuel du protestantisme, c'est bien un protestantisme au singulier, mais beaucoup de vos cours portent ce S qui signe justement le pluriel, Hubert Bost.
Vous avez raison. Nos intitulés de chaire à Jean-Paul Willem et à moi mettent les protestantismes au pluriel. Et il est vrai que lorsque nous mettons dans la revue d'histoire du protestantisme le terme au singulier, nous sous-entendons une diversité.
Jean-Paul Villers.
Cette diversité est structurelle et originelle. Il n'y a pas un protestantisme unique qui se serait ensuite diversifié. Dès le XVIe siècle, il y a la réforme luthérienne, la réforme anglicane, la réforme réformée.
Oui, c'est Ernst Troeltsch qui disait au début du XXe siècle, effectivement, qu'il fallait déjà, au tout départ, parler de deux protestantismes.
Absolument,
déjà.
Absolument. Qui ont quelquefois entretenu des relations assez polémiques, par exemple entre luthériens et calvinistes, ou entre les luthéraux réformés et les expressions plus évangéliques insistant sur la conversion à propos des réveils, par exemple. Il y a donc toujours cette tension entre différentes expressions du protestantisme, et je crois que c'est structurel dans le monde protestant, et ça traverse les siècles. On voit aujourd'hui le développement de ce qu'on appelle un protestantisme évangélique qui insiste sur la conversion personnelle et le témoignage de cette conversion et qui est assez prosélyte. Mais je dirais que ça remonte au XVIe siècle même avec des courants spiritualistes et mystiques qui existaient aussi au XVIe.
Catherine de Copé.
Oui, ce qui est très fort en même temps, c'est que tous ces textes nous montrent au fil des siècles la volonté de souligner cette appartenance qui reste comme une appartenance unique à travers ce mot, une même appartenance.
Oui, une même appartenance, alors qui insiste sur le sola scriptura, l'écriture seule, mais ce point commun à tous les protestants, quelle écriture, quelle interprétation, quelle hiérarchisation des vérités chrétiennes, il y a là toutes sortes de différenciations, mais j'ai employé dans ma contribution de la revue d'histoire du protestantisme le terme de logiciel. Un logiciel de transformation qui a plusieurs applications et ça me semble une métaphore
moderne.
Heureuse et moderne pour dire un peu, il y a un moteur de réforme dans le protestantisme.
Permanent.
Le protestantisme a en quelque sorte introduit la réforme dans la réforme, car en désacralisant l'institution ecclésiastique et les clercs, d'emblée, l'Église apparaissait comme une institution historique devant toujours être réformée, améliorée. Et donc, il n'y a pas de sacralisation d'institution, il n'y a pas de sacralisation du personnage ecclésiastique. Et donc, c'est un moteur de transformation et de réforme qui a été introduit dans la réforme elle-même.
Alors, à ce moment de notre discussion autour de la question de la façon dont les protestants ont raconté et racontent leur histoire, nous allons venir à un personnage que vous connaissez bien et que vous admirez beaucoup, Hubert Bost. Il s'appelle Pierre Bayle. Et vous pouvez nous en dresser le portrait avant qu'un extrait d'un texte de Pierre Bayle, tiré du Dictionnaire historique et critique, soit justement lu par Daniel Königsberg.
Alors, Pierre Bayle est un fils de pasteur et un exemple même d'intellectuel huguenot, parti, comme on dit, au refuge, c'est-à-dire en fait en Hollande, pour fuir la persécution.
Il est originaire du sud-ouest.
Il est originaire d'Ariège, oui, ouais. du Carlat.
D'ailleurs, le village s'appelle Carlabeil aujourd'hui.
Aujourd'hui, le village s'appelle Carlabeil. Et j'en salue cordialement les habitants.
dont un président du Conseil constitutionnel qui vient de prendre ses fonctions.
Vous êtes très bien renseigné. Bail a...
On se situe au XVIIe siècle.
Hein. On est au XVIIe siècle, on y revient. Il est né en 1647 et mort en 1706. Il a beaucoup travaillé, écrit. Il est philosophe, il est historien, il est moraliste, il est journaliste. Il écrit de plusieurs façons et il est l'un de ceux qui font basculer, en quelque sorte, le discours protestant de la théologie vers la culture. Et en particulier vers l'histoire, la raison critique et la philosophie.
Un extrait donc du dictionnaire Histoire et Critique qui date de la fin du XVIIe siècle, lu par Daniel Königsberg.
Ne peut-on donc pas me dire qu'il semble que j'ai dessein de réveiller les passions et d'entretenir le feu de la haine en répandant par-ci, par-là, dans mon ouvrage, les faits les plus atroces dont l'histoire du XVIe siècle fasse mention, siècle abominable, et auprès duquel la génération présente pourrait passer presque pour un siècle d'or, quelque éloignée qu'elle soit de la véritable vertu. Il importe donc beaucoup à ceux de la religion, pendant que les choses sont toutes fraîches, de garantir la réalité des événements et de la défendre contre toutes les entreprises des flatteurs et des empoisonneurs de l'histoire.
Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Et à 9h30 sur France Culture, nous poursuivons notre débat dans notre semaine consacrée à l'histoire des protestantismes autour de la façon dont les protestants ont raconté et racontent encore leur histoire. Alors, ce texte de Pierre Bayle, dont il faut dire effectivement que c'est un des grands penseurs justement de l'autonomie, de l'intellectuel, pourrait-on dire, à la fin du XVIIe siècle, ce texte de Pierre Bayle nous dit beaucoup de choses, en particulier sur la falsification de l'histoire, la nécessité d'établir une vérité, de prendre de la distance par rapport aux sources, y compris les sources du XVIe siècle. Et ça, c'est extrêmement important, y compris pour aujourd'hui, pourrait-on dire, cette façon de concevoir, par Pierre Bayle, le travail historien ou le travail historique, Hubert Bost.
Oui, vous aurez tout d'abord remarqué la parenté qu'il y a entre le texte de Guizot et celui-ci. Il y a, dans l'un et l'autre cas, un besoin de faire mémoire pour éviter l'oubli. Et en l'occurrence, Bayle est confronté à la propagande Louis XIVienne qui, à travers le Mercure, le Journal des Savants, la Gazette, etc., laisse entendre que les protestants se sont convertis au catholicisme et sont entrés dans les églises par cohorte et dans l'enthousiasme, c'est contre cet intox qu'il essaie de rappeler la nécessité, effectivement, de rétablir les faits. C'est à cet égard le début de cette conscience d'une histoire critique.
Sur ce point, Pauline Duléaour, il y a tout de même effectivement une histoire qui court, et en particulier sous Louis XIV et sous Louis XV, une histoire qui court souterrainement, pourrait-on dire. Comment cela raconte-t-on? Et surtout, vous qui avez travaillé sur ce rapport entre le refuge et le désert, c'est-à-dire la façon dont les protestants français se sont organisés secrètement, pourrait-on dire, pour pouvoir continuer à pratiquer leur culte, tandis que d'autres étaient partis à l'extérieur du pays pour pratiquer leur culte plus librement. Comment tout cela s'interpénètre-t-il? C'est-à-dire, ces récits des uns et ces récits des autres sont-ils concordants, discordants? Qu'est-ce qu'on en sait, justement?
Alors, il y a certainement, sinon une fracture, du moins un malentendu entre les protestants restés en France et les réfugiés huguenots. Les réfugiés huguenots, dans un premier temps, sont tout à fait hostiles aux assemblées qui se tiennent au désert, pensant que ces assemblées sont autant de foyers de sédition et qu'elles risquent d'être l'occasion d'une nouvelle persécution d'ampleur. Au désert, au contraire, on essaye de rétablir.
Alors, ce désert, il est qualifié de désert parce que pour des raisons bibliques, bien évidemment.
Des raisons bibliques,
mais
oui.
il est circonscrit à aux Cévennes et aux
alentours
des Cévennes.
Alors, dans un premier temps, il s'agit d'abord des Cévennes et du Bas-Languedoc, et puis peu à peu, ce territoire s'étend jusqu'au Poitou, même jusqu'à la Normandie à l'ouest
et à l'est au Dauphiné,
exactement.
Donc, ce désert, donc, c'est ce lieu où on continue à pratiquer le culte protestant,
oui,
malgré l'interdiction et la révocation de l'édit de Nantes. Et ce culte se pratique dans ces lieux-là. On y raconte une histoire dans ce lieu-là.
Alors,
c'est une histoire de persécution.
Alors, on y raconte une histoire qui est une histoire qu'on essaye de transmettre au refuge, justement, qui est une histoire de persécution, qui est une histoire... qui cherche à gommer la révocation de l'édit de Nantes et à s'inscrire dans une tradition historiographique antérieure à la révocation de l'édit de Nantes. Et cette histoire donc qui a été commandée par exemple au pasteur vivarois réfugié à Lausanne, Antoine Cour, est une histoire des églises réformées depuis la révocation jusqu'au temps présent. C'est une histoire du temps présent.
L'enjeu de cette période, ce n'est pas seulement de pratiquer le culte, mais aussi finalement d'organiser une communauté. Et écrire l'histoire, c'est aussi organiser la communauté.
Bien sûr, c'est écrire écrire l'histoire, c'est organiser une identité qui soit conforme à l'histoire traditionnelle de l'Église, des églises réformées de France.
Avec l'enjeu d'exister, quand même.
Avec l'enjeu d'exister, malgré la persécution et malgré l'interdiction.
Et quand vous disiez tout à l'heure qu'il y avait parfois des tensions, une autre histoire qui se racontait dans le refuge, donc justement, que ça soit à Londres, aux Pays-Bas, à Genève ou ailleurs, ou en Allemagne... quelle est cette autre histoire qui se raconte et comment y a-t-il des distorsions, pourrait-on dire, par rapport à l'histoire qui se transmet souterrainement et secrètement à l'intérieur du désert?
Alors, il y a eu surtout à Londres une histoire des camisards qui a été très exploitée. Et les partisans du rétablissement de l'ordre... de l'orthodoxie, si vous voulez, réformée dans le désert, sont absolument se positionnent en rupture par rapport à l'événement camisard, et par conséquent, ils sont opposés à cette histoire qui glorifie ce passé de révolte au nom de Dieu.
Donc il n'y a pas une sorte, ça n'est pas univoque.
Et lorsqu'Antoine Cour écrit en 1745 une histoire qui pose bien cette rupture avec le passé camisard, son correspondant de Londres lui demande d'effacer les lignes qui condamne le passé camisard.
Ah oui, il y a deux versions de l'histoire qui sont en opposition.
Même. Oui, absolument.
Catherine de Copé.
Alors Hubert Boss, peut-être vous pourriez nous rappeler ce que c'est que ce passé camisard pour les non-initiés qui nous écoutent.
En 1702 et disons en gros jusqu'en 1710 pour aller jusqu'au terme du processus, une révolte d'hommes et de femmes qui prennent les armes au nom de leur liberté religieuse se naît dans les Cévennes à la suite de l'assassinat de l'abbé du Chayla au pont de Montvert. Et cette révolte pose un problème particulièrement crucial aux protestants dans la mesure où, en général, ils veulent se démontrer obéissants au roi, et voici que, soudain, au nom de leur foi, ils prennent les armes. Et c'est la raison pour laquelle il y a des histoires antagonistes qui s'écrivent, c'est que, dans les différents cas, on a tendance soit à justifier la soumission absolue au monarque, au nom du principe selon lequel les protestants sont de fidèles sujets, soit dans l'autre cas, on insiste davantage sur la tension et le conflit de conscience qui traverse les protestants, et l'on démontre qu'ils sont désobéissants au roi parce qu'ils veulent obéir à leur Dieu.
Jean-Paul Willem.
Il y a également eu une réticence parmi les protestants du refuge par rapport au prophétisme des camisards et aux effervescences.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce prophétisme, là encore
Ce prophétisme, ça fait penser, sans faire d'anachronisme, aux expressions pentecôtistes aujourd'hui, avec plus d'effervescence, des personnes très inspirées. Et donc, le problème de la régulation, et là, Antoine Court a joué un rôle central, le problème de la régulation, de la prédication protestante se posait.
Et donc il y a un débat religieux aussi sur
les protestants du refuge, je voyais ça d'un autre œil, parce qu'ils n'étaient pas en situation de persécution. Alors, c'est intéressant d'évoquer le refuge. Il y a par exemple encore des cultes en langue française en Angleterre, y compris à Canterbury. Il y a une chapelle où il y a toujours chaque dimanche un culte en langue française. Et il y a des sociétés huguenotes en Angleterre, en Allemagne et dans différents pays. Aux États-Unis, bien sûr.
Et vous évoquiez le nom d'Antoine Court, pasteur, auteur de l'histoire des troubles des Cévennes ou la guerre des Camisards, vous le disiez, entre 1745 et 1760, c'est cela en l'occurrence.
Il est publié en 1760.
C'est ça, mais il commence à l'écrire
Les sources commencent à être rassemblées dans les années 1744.
Voilà.
Il se rend en France et ça lui donne l'occasion de rassembler les sources.
Une trentaine d'années après les événements, donc
voilà.
Un peu plus d'une trentaine d'années après les événements. Vous nous présentez Antoine Court avant qu'on en lise un extrait justement de cette histoire des troubles des Cévennes.
Alors Antoine Court est un pasteur du Vivarais, né en 1695. C'est un autodidacte. Il n'a pas fait d'études. Et il se réfugie à Lausanne en 1729, après avoir été, sa tête ayant été mise à prix. Mmh. Et à partir de ce refuge à Lausanne, il se fait le scribe des églises du désert. Il écrit à toutes les communautés huguenotes qu'il peut atteindre en Europe, afin de leur demander
des sources,
des sources pour son histoire,
des récits. Et des sous,
et des sous et des financements pour le séminaire de Lausanne qui forme les futurs pasteurs du désert.
Alors, on écoute un extrait de ce texte. Il se qualifie de patriote lui-même et il explique pourquoi et quel est son rôle dans cette façon de raconter l'histoire.
Le patriote français et impartial crut devoir rendre à cette histoire sa véritable forme. Il a mis tout en forme pour y parvenir. Il ne s'est pas contenté d'acquérir tout ce qui a été imprimé sur ces matières par les deux parties. Il s'est encore procuré à grands frais des manuscrits précieux composés et par des catholiques et par des protestants, tels que des journaux dressés sur les lieux, des histoires de cette guerre qui n'avait pas encore vu le jour, nombre de relations particulières et une infinité de lettres. Mais de plus, il s'est transporté dans tous les lieux où se sont passés les événements qu'il raconte. Ici, il déterrait des manuscrits. Là, il assemblait les témoins de ces événements. Il les entendait avec une patience admirable. Partout, il examinait la scène de ses actions pleines d'horreur. C'était peu de temps après l'extinction de cette guerre et dès l'an 1713. La mémoire de ces faits était encore toute fraîche et les esprits dans la plus grande fermentation. Il ne fallait pas qu'une étincelle pour rallumer l'embrasement. Le patriote travailla à y remédier. D'un côté, il amassait des matériaux pour l'histoire de ces événements. De l'autre, il ne négligeait rien pour en prévenir de semblables.
C'est un formidable texte. En fait, Antoine Court est l'inventeur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent. J'avais cru que l'Institut d'Histoire du Temps Présent avait été créé en 1978-79 par des historiens contemporanéistes, mais c'est ni plus ni moins ce qu'il raconte.
On pourrait entendre un documentariste du XVIIIe siècle.
Hein. Oui, c'est ça. Amasser des matériaux pour l'histoire, c'était le titre aussi de la revue, et c'est le titre de la revue de la BDIC. Il amasse des matériaux pour l'histoire et il fait de l'histoire du temps présent, Hubert Bost.
Oui, je crois que vous avez raison d'insister sur le caractère actif de l'historien, au sens où nous avons tendance, nous, à penser qu'un historien va consulter des archives dans des centres qui sont spécialisés pour ça. Mais là, il y a vraiment une manière de moissonner des sources, d'aller les chercher sur place, d'aller les traquer.
Des témoins,
parfois.
D'aller interroger les témoins, c'est de l'histoire orale qu'il fait.
Oui, oui. Alors, quand il dit que les choses ont commencé en 1713, il faut se rappeler qu'en 1713, lui, il a 18 ans. Mmh. Il est précoce, mais il n'a pas forcément non plus commencé aussitôt que cela.
Mmh. Catherine de Copé.
Oui, Pauline Dulay-Aour, je crois que les archives d'Antoine Court constituent 118 volumes, alors des lettres, des récits, des témoignages donc, qui ont été comme ça compilés.
Oui, et surtout une volumineuse correspondance. Et une partie de ces volumes d'archives que se trouvent les témoignages qu'il a recueillis au cours de son séjour en France en 1744. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que ayant fait moi-même une petite enquête dans l'histoire des troubles des Cévennes, j'ai constaté qu'il n'utilise que 30% d'auteurs protestants. Les sources qu'il consacre aux auteurs catholiques, les pages qu'il consacre aux auteurs catholiques sont bien plus nombreuses, sans doute parce qu'il se méfie des auteurs de son propre camp. Et qu'il préfère.
C'est original, ça, c'est pas mal.
Il préfère faire vérifier par des adversaires ce qu'il affirme.
Parce que derrière tout ça, il y a quand même la stratégie de non-violence et la stratégie de pacification qui porte
Absolument.
Cet homme à travers sa vie.
Tout à fait. Et
ce qui n'est pas toujours le rôle de l'historien, mais là, en l'occurrence, c'est intéressant.
Oui.
Hubert Bost.
Oui, je voudrais ajouter que Court est un disciple de Bayle et qu'il y a un lien
important. Forcément.
Or, Je le dis parce que l'un des critères de la vérité historique pour Bayle, c'est d'aller chercher chez l'adversaire, chez celui du parti adverse, la vérité que l'on traque. Lorsque quelque chose qui est défavorable à un parti est affirmé par quelqu'un qui porte la parole de ce parti, il y a davantage de chances que la version en question soit crédible. Et lorsque des partis opposés s'accordent sur une même vérité, il y a là aussi un critère d'exactitude historique.
Alors qu'en est-il justement de ces récits, par exemple ceux d'Antoine Court, qui donc sont compilés, rassemblés avant la Révolution française et encore à la période où effectivement la religion protestante est malmenée, et donc sous le boisseau. Ensuite, c'est-à-dire, est-ce que au bout du compte, ces récits vont former la base de travail des historiens du 19e siècle, par exemple, Hubert Bost?
Oui, c'est précisément la raison pour laquelle une bibliothèque a été fondée à la Société de l'Histoire du Protestantisme français, raison aussi pour laquelle un gros travail de collection au sens fort du terme a été effectué dans d'autres lieux, puisque l'on parlait de la collection des papiers courts, celle-ci est conservée à Genève. Il y a ainsi pas mal d'endroits qui sont des lieux de ressources absolument inévitables pour quiconque veut travailler sur ces événements.
Et toujours avec cette double injonction, c'est de rendre grâce aux témoins, rendre grâce aux martyrs, c'était dit dans un des textes, effectivement, et donc faire en sorte que leur mémoire ne soit pas oubliée. Et presque triple injonction, donc faire de l'histoire, effectivement, et faire de l'histoire pour quelque chose, pour prévenir de semblables événements aussi, avec la crainte que ces événements ne reviennent, en l'occurrence. Et ça, c'est effectivement ce que disait Patrick Cabanel du poids, justement, de cette histoire de la persécution sur la conception que les protestants français avaient de leur propre action.
Alors, je ne sais pas si le caractère prophylactique de cette histoire s'avère dans l'histoire.
Oui,
peut-être suis-je trop pessimiste pour le penser.
On sait ce qu'il en a été à propos de la question de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah et de la question du jamais ça, par exemple.
Voilà. Maintenant, cela dit, les deux autres points que vous venez de mentionner me paraissent tout à fait constitutifs de la tension de l'historiographie protestante. D'un côté, ce que j'appellerais un pôle existentiel et mémoriel, et avec effectivement cette dimension de reconnaissance et de gratitude, et de l'autre côté, un plan qu'on appellera plus scientifique et critique, dans lequel il n'est pas question de céder non plus à ce que j'appellerais le narcissisme huguenot, c'est-à-dire à l'idée selon laquelle, comme on a été vaincu ou persécuté, on serait les meilleurs
Jean-Paul Willem.
Mais l'intérêt des protestants français pour leur histoire s'est particulièrement manifesté à l'occasion de commémorations. Par exemple, commémoration de l'édit de Nantes, commémoration de la révocation de l'édit de Nantes, en présence d'ailleurs du président François Mitterrand. Mm-hmm. Ce qui montre aussi que l'écriture de l'histoire des protestants en France est une contribution à l'écriture de l'histoire de France. Et que des événements comme l'édit de Nantes de 1598 et le 1685, la révocation...
Ne touchent pas, évidemment, que la communauté protestante.
Ça a eu aussi des résonances très fortes pour parler de la laïcité, un thème très, très actuel.
Catherine de Copé.
Et en même temps, il y a un enjeu pour les protestants eux-mêmes de faire l'histoire de la répression et des persécutions. C'est aussi se dégager d'une histoire mythique pour essayer de comprendre aussi comment la répression a impacté les pratiques religieuses, politiques, intellectuelles. Alors, je ne sais pas qui peut répondre sur cette question-là. Le fait de pas être dans le mythe non plus d'une sorte de continuité protestante qui serait dans une sorte de pureté comme ça théologique, alors que c'est quand même très lié à l'histoire de la répression.
Il y a des continuités, des discontinuités, mais cette histoire d'une minorité qui a été persécutée et qui a mis un certain temps à être reconnue dans la société française a engendré un ethos protestant français qui cultive particulièrement sa discrétion et qui n'est pas particulièrement ostensible. Il y a tout l'héritage du désert, un culte
secret.
Un culte secret, un culte
clandestin.
Et donc, ça a engendré une certaine discrétion des protestants français. Mais
y compris après l'autorisation de pratiquer son culte, etc., qui est revenu. Donc,
tout à fait.
Justement, venons-en peut-être à ce qui a motivé cette émission d'aujourd'hui, la transformation du bulletin de la Société de l'Histoire du protestantisme français en revue d'histoire du protestantisme. Le premier numéro va paraître. Donc, c'est une histoire qui remonte à 1852, on l'a dit au début de cette émission. Qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui va changer ce bulletin, ça nous était dit tout à l'heure par Pauline Duléaour, a une importance considérable pour avec la façon de publier des sources, de mettre en avant des nouvelles interprétation depuis 150 ans de cette histoire-là. Qu'est-ce qui change avec la création de cette revue d'histoire du protestantisme Hubert Bosse, puisque c'est vous qui l'avez en charge, et que les deux autres personnes qui sont ici sont
signataires
dans le premier numéro. Pour Pauline Duléaour, il faut le mentionner, les tribulations d'un député général des Églises, l'affaire Duplan qui met en cause justement la relation que Duplan avait avec Antoine Court, dont on vient de parler. Et puis pour Jean-Paul Willem, on l'a dit, un titre flambant, de quoi le protestantisme est-il le nom, justement, sur cette question de l'usage de ce terme de protestantisme pour qualifier cette multiplicité d'approches de la religion.
Alors, il y a effectivement un héritage extraordinaire des 160 ans du bulletin de la Société d'Histoire du Protestantisme français. Il m'a semblé, et le comité de cette société m'a suivi sur cette proposition, indispensable de parler de revue parce que c'est le terme le plus international et non plus de bulletin, de ne plus mentionner la société qui continue d'en être l'artisan et en quelque sorte l'organisme qui publie ce périodique, mais de ne plus l'afficher pour ne pas donner l'impression d'être dans un cénacle. Mmh. Et puis, si nous avons supprimé le mot français, c'est véritablement, non pas parce que nous cesserions de l'être, mais parce que d'une part, il est possible de publier dans une autre langue que le français, c'est envisagé, même si nous ne l'avons pas encore fait. Et surtout, nous voulons donner au terme de protestantisme sa dimension, je ne dirais même pas internationale, mais mondiale. Je voudrais que nous puissions aborder, pas seulement de manière historique au sens érudit du terme, mais aussi en recourant à d'autres sciences humaines et sociales, l'anthropologie, la sociologie notamment, mais aussi l'histoire de l'art ou de la littérature et de la pensée, aborder toutes sortes d'autres protestantismes d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, montrer que le caractère problématique de ce terme dont nous avons déjà parlé au niveau français se surmultiplie en quelque sorte lorsqu'on aborde cette notion au niveau mondial.
C'est ce que vous abordez dans votre article, Jean-Paul Willem, justement, cet caractère problématique de ce terme.
Oui, tout à fait, mais j'aimerais aussi insister sur le fait qu'on parlait tout à l'heure protestantisme singulier ou pluriel. On peut aussi parler d'histoire au singulier et au pluriel, parce que l'histoire des protestants, y compris des protestants en France, c'est aussi l'histoire des luthériens d'Alsace, c'est aussi l'histoire des évangéliques, et pas seulement l'histoire des réformés avec toute l'épopée huguenote. Et il y a eu une certaine forte insistance sur le passé huguenot, réformé, l'épisode des camisards, etc., dans la mémoire protestante française. Mais il ne faut pas oublier qu'en France même, il y a différentes expressions luthériennes, alsaciennes, évangéliques du protestantisme. Et puis, le protestantisme, réalité mondiale, aujourd'hui, sur 100 protestants, il y en a 37% en Afrique subsaharienne, 33% dans les Amériques. Mmh. Et les 5 pays au monde qui comptent le plus de protestants, c'est évidemment en chiffre absolu les États-Unis, mais les 4 autres pays, le Nigeria, la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud. Voilà la réalité démographique actuelle du protestantisme.
Et sur 100 protestants, dites-vous, ou néo-protestants, il y en a 60, néo-protestants en France, vous dites qu'il y en a 59 qui viennent du catholicisme, par exemple.
Absolument, absolument.
Donc, ce qui montre aussi la variété. Et ce qui est très intéressant dans ce bulletin qui devient maintenant la revue d'histoire du protestantisme, c'est que vous maintenez effectivement toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir savoir comment s'y retrouver dans cette large histoire du protestantisme. Et il y a tous les musées qui sont sous l'égide de la Société de l'histoire du protestantisme français, le musée du désert, le musée Jean Calvin, le musée des Vivarais protestants, de la France protestante de l'Ouest, etc. Et la multiplicité, effectivement, de ces endroits où l'on raconte l'histoire, Hubert Bost, et qui sont peut-être pas les mêmes histoires racontées dans chacun de ces endroits-là, selon qu'on est dans l'Ouest de la France, dans le Sud ou dans l'Est, par exemple.
En effet, il y a beaucoup de lieux de mémoire, pour reprendre une expression qui s'est imposée, Poitou, Cévennes, Picardie, Alsace-Moselle, Paris, etc. Et il y a là une autre façon de faire ou d'animer l'histoire qui rencontre des publics assez nombreux. Pendant longtemps, l'approche muséale du protestantisme a paru poussiéreuse. Aujourd'hui, elle semble beaucoup plus dynamique.
Mmh. Catherine de Copé.
Avec, dans cet enjeu de mémoire, l'idée aussi de ne pas perdre de vue le fait que le pèlerinage, finalement, n'existe pas dans le protestantisme, et que finalement, c'est le voyage savant qui remplace le pèlerinage. Et alors, je ne sais pas quel est le lien aujourd'hui de la nouvelle revue avec l'enjeu de commémoration. Peut-être que vous pouvez nous répondre, puisque dès son origine, le bulletin avait cette vocation de commémorer aussi.
Alors, la revue d'histoire du protestantisme conservera cette fonction commémorative.
Surtout que l'année prochaine, on fête les 500 ans, enfin, probablement les 500 ans, théoriquement.
L'année dernière, 2015, nous célébrions le 300e anniversaire de l'Assemblée des Montaises, qui était le moment où les églises clandestines s'étaient restructurées. Et effectivement, en 2017, on fêtera les 500 ans de l'affichage des 95 thèses de Luther à Wittenberg. Et par conséquent, ce sera un événement d'une portée internationale considérable. L'aspect commémoratif se manifeste notamment par la publication annuelle des allocutions qui sont prononcées au Musée du Désert chaque année, le premier dimanche de septembre.
L'Assemblée annuelle, la fameuse Assemblée annuelle.
L'Assemblée dite du Musée du Désert, oui.
Alors donc, on voit bien effectivement qu'il y a ce nombre incroyable d'initiatives autour de cette histoire du protestantisme. On peut aussi mentionner, je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure, le musée virtuel du protestantisme, qui est aussi une bonne manière pour tous ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, d'y entrer par des thématiques nombreuses qui permettent d'avoir simplement les grands faits qui permettent de structurer une vision que l'on peut avoir de ce protestantisme français. Et donc désormais, la revue d'histoire du protestantisme qui paraîtra quand exactement, Hubert Bost ?
Qui paraîtra le mois prochain, en mars, pour son premier numéro.
Chez Drose.
Et qui paraîtra au rythme de 4 livraisons par an.
Catherine de Copé.
On peut aussi évoquer avec le sourire la multiplication des randonnées qui font le trajet des Huguenots à partir de la Drôme. Ça aussi, c'est une façon de commémorer avec ses jambes.
Ce qui démontre que, au fond, la notion de pèlerinage n'est peut-être pas tout à fait étrangère à la capacité de marche à pied des protestants.
Et ce tome 1, ce premier numéro de la revue d'histoire du protestantisme, qui sera donc en librairie à partir du mois prochain, comporte donc un article de Jean-Paul Willem, je l'ai cité, mais également un article très intéressant de Franck Lestringant, spécialiste en particulier de la France antarctique, sur Villegagnon, entre légendes noires et légendes dorées, mais également écriture protestante au féminin de Nadine Cupertit-Sûr, et également calvinisme, histoire et antiquité, les originalités du médecin lyonnais Jacob Spohn par Yves Moreau, et on l'a dit tout à l'heure, donc l'article de Pauline Dulénaour qui raconte les tensions entre Monsieur Cour et Monsieur Duplan à la fin du 18e siècle. Merci à tous, merci à vous d'être venus, Daniel, pour pouvoir lire ces textes. Daniel Königsberg, merci à vous, Catherine de Copé. On se retrouve demain pour évoquer la question, une question tendue là aussi, la question
des lieux de culte. L'octroi des lieux de culte aux protestants, comment on partage aussi les espaces confessionnels.
Merci à tous sur ce sujet. On termine par un magnifique morceau donc, qui a été choisi par Françoise Camard, un morceau de gospel. Precious Lord, dans une interprétation d'Aretha Franklin, pour conclure cette émission d'aujourd'hui, une émission préparée comme d'habitude par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marsay. Tristan Gatalon était avec nous à la technique et Françoise Camard à la réalisation. Vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter cette émission en allant sur le site internet de France Culture, tout nouveau, tout beau. Et vous pouvez également y laisser des commentaires en nous écrivant sur la page de la Fabrique de l'Histoire du jour, et également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Vous avez été très nombreux à commenter sur ce groupe hier le documentaire que vous pouvez également réécouter sur la CIMADE à Massy, un documentaire de Catherine Decopé et de Françoise Camard. Thank you.